Bonsoir à tous. Et au sommaire ce soir, sportif et Covid dans les starting blocks. À la veille de la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo, vous entendrez la fierté et l'impatience de l'un des deux porte-drapeaux français. Le Japon lance donc ses Jeux malgré le contexte sanitaire et l'opposition de sa population, à l'exception peut-être des bénévoles locaux. Rencontre avec l'une d'entre eux. La course d'obstacles parlementaires du pass sanitaire. Premier revers cet après-midi pour le gouvernement à l'Assemblée. Nous y serons. Un pass qui sera contrôlé massivement dans les trains dans les prochaines semaines, promet déjà la SNCF. Dans ce journal également, Emmanuel Macron qui change de téléphone après les révélations sur Pegasus. C'est officiel. À droite, Valérie Pécresse se lance à son tour dans la course à l'Elysée. Et puis aux États-Unis, les groupes pharmaceutiques prêts à payer des milliards de dollars pour solder la crise des opiacés. Dans 20 minutes, le téléphone sonne. Bonsoir Marion Lourd.
Bonsoir.
Et au menu ce soir,
vous qui vous apprêtez à prendre la route des vacances, imaginez un trajet sans bruit et sans gaz d'échappement. La voiture électrique pourrait bien s'imposer après 2035, ça c'est si la Commission européenne obtient l'interdiction de vente de véhicules thermiques. La voiture électrique, êtes-vous prêt, vous, à vous y mettre? Vos questions à nos invités 01 45 24 7000 par mail et sur l'appli France Inter.
Rendez-vous 19h20, à tout à l'heure Marion.
France Inter.
Il y a eu l'incertitude jusqu'au bout. Mais ça y est, on y est presque, malgré le Covid, malgré l'état d'urgence à Tokyo, la défiance des Japonais. Les Jeux Olympiques s'ouvrent donc officiellement demain. Cérémonie à 13h, heure française, en très petit comité, seules quelques centaines de VIP dans les tribunes. Et pour emmener la délégation française, deux porte-drapeaux, c'est une première. La judoka Clarisse Agbegnénou et le gymnaste Samir Aït Saïd. Belle revanche pour ce spécialiste des anneaux qui avait fini les précédents Jeux de Rio à l'hôpital.
Je suis quelqu'un qui est très patriote, donc du coup c'est une fierté. C'est une fierté immense. On porte toute une délégation avec nous. On va tous à la guerre pour aller chercher des médailles olympiques. On va prendre du plaisir. Faire une cérémonie et enchaîner la compétition le lendemain, c'est pas facile. Je sais qu'il y en a qui préfèrent rester au village et ça se comprend parce que voilà, porte-drapeau, c'est bien. Mais faut pas oublier que je viens ici pour aller chercher cette médaille olympique, ça c'est mon objectif principal. Si j'avais le choix entre une médaille olympique et de porte-drapeau, mon choix serait vite fait, c'est aller chercher ce titre olympique. Donc on va tout faire, capitaine et autres, pour aller chercher le plus de breloques possible et surtout représenter au mieux toute cette équipe de France et les Français qui seront derrière leurs écrans.
La fierté de Samir Aït Saïd avec Stéphanie Mora à la veille donc de cette cérémonie d'ouverture des Jeux très particuliers, sans public. Pour les délégations, bulles sanitaires strictes, mais pas imperméables. Déjà près de 90 cas positifs. En pleine épidémie, la majorité des Japonais ne comprend pas le maintien de cet événement. Forte opposition locale, sauf peut-être chez les 70 000 bénévoles, à l'image de cette quinquagénaire rencontrée par Karine Nishimura.
Kimiko est tout sourire, vêtue d'un uniforme sportif bleu et gris estampillé Tokyo 2020. Elle a réalisé son désir depuis si longtemps être bénévole pour les JO.
Je suis née l'année précédant les Jeux de Tokyo en 1964. Je n'avais qu'un an quand ils ont eu lieu. Je n'en ai aucun souvenir, mais ma mère n'a cessé de m'en parler.
Avec la pandémie, les changements d'envergure, les péripéties du report, elle a un temps douté.
Je me suis dit qu'avec tout cela, il n'aurait pas forcément besoin de beaucoup de bénévoles. Mais finalement, la réponse positive est arrivée par email.
Son rôle, renseigner des journalistes ou techniciens. Testée toutes les semaines, mais seulement à moitié vaccinée, Kimiko n'a pas de crainte autre que la hantise de ne pas savoir répondre à toutes les requêtes. Cependant, elle reconnaît que l'opposition de la population au JO la rend prudente.
Je voudrais davantage pouvoir dire ouvertement que je suis bénévole pour les JO, mais la réalité est que, vu l'opposition, je crains les réactions et n'en parle qu'avec ma famille et mes amis proches.
Elle travaillera 9 jours en tout, 8 heures par jour. Tokyo, Karine Nishimura, France Inter.
Et à la situation sanitaire très délicate s'ajoutent d'autres déconvenues de dernière minute pour les organisateurs. Ce matin, l'un des responsables de la cérémonie d'ouverture a été carrément limogé pour une très mauvaise blague sur l'Holocauste remontant à une vingtaine d'années. plus près de nous, l'un après l'autre, les départements les plus touchés par le Covid resserrent la vis. La préfecture du Var réinstaure à partir de demain le masque obligatoire à l'extérieur dans une soixantaine de communes, notamment Toulon, Fréjus, Saint-Raphaël ou encore Saint-Tropez. Dans les Pyrénées-Orientales, très touchées ces dernières semaines, c'est ceinture et bretelles. Le port du masque sera désormais obligatoire, même dans les lieux soumis à passe sanitaire. Théoriquement, il devrait déjà être au Sénat, 24 heures de retard pour le projet de loi sur le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants. Le texte est toujours examiné à l'Assemblée où les débats houleux ont repris à 17h avec un premier revers pour l'exécutif. Les députés ont voté contre le pass sanitaire à l'entrée des hôpitaux et des EHPAD pour les patients non urgents et les visiteurs. Philippe Benassaya, député LR des Yvelines dans l'hémicycle tout à l'heure.
Il est nécessaire, je pense, de préserver ce droit aux soins, quelles que soient les conditions sanitaires et quel que soit le statut vaccinal du patient. Empêcher les malades d'avoir accès aux hôpitaux et aux autres établissements de santé si leur pathologie n'est pas urgente revient, à mon avis, à leur faire encourir des risques potentiellement irréversibles pour leur santé. Par ailleurs, depuis le début de la crise sanitaire, l'interdiction des visites dans les établissements de santé a profondément choqué les Français qui n'ont ni pu voir une dernière fois leurs proches mourants, ni pour les soutenir dans ces moments difficiles. Il est absolument nécessaire de garantir donc un droit à la visite, quel que soit le statut vaccinal du visiteur.
Propos recueillis par Claire Flochel à l'Assemblée nationale, mais ce vote n'est pas définitif. Selon nos informations, il y aura une nouvelle délibération à la demande du gouvernement cette nuit ou au plus tard demain. Le pass au mois d'août, ce sera aussi dans les trains longue distance, TGV, Intercité, et la SNCF promet ce soir des contrôles massifs à quai, mais aussi à bord. Christophe Fanichet, patron de SNCF Voyageurs.
C'est effectivement un contrôle massif, c'est ça que nous préparons, avec un objectif très simple, c'est que ces contrôles puissent s'effectuer partout et à tout moment. Dès que le gouvernement aura décidé de la date de mise en place de ces vérifications d'espace sanitaire, donc ces contrôles interviendront à quai, et massivement à quai, mais ils pourront aussi intervenir à bord, ou même au moment du débarquement des voyageurs. L'objectif qui nous a été demandé par le gouvernement, c'est de pouvoir vérifier les passes sanitaires et d'être dans ce rôle d'incitation à la vaccination. Et c'est pour cette raison qu'on a trois modalités de contrôle, parce que dans une gare comme la gare de Lyon, qui dans un grand départ accueille entre 200 et 300 000 voyageurs par week-end, on ne peut pas contrôler tous les trains et tous les voyageurs, mais les voyageurs pourront être contrôlés à bord ou même à leur arrivée.
Christophe Fanichet avec Laurent Kramer. Alors on n'a pas encore la date précise pour l'entrée en vigueur, mais une certitude, le pass ne sera pas encore obligatoire pour le chassé-croisé du 31 juillet 1er août. Sur la vaccination maintenant, le défi est très ambitieux. Le gouvernement veut 50 millions de primo-vaccinés fin août. Alors tous les moyens sont bons, par exemple en allant chercher les non-vaccinés, en particulier les 5 millions de Français souffrant de comorbidités et qui ne sont toujours pas protégés. L'assurance maladie va les appeler directement, Solène Lehen.
La vaccination progresse chez les Français qui souffrent de pathologies les exposant à une forme grave en cas de Covid. Les trois quarts ont reçu au moins une dose de vaccin. Dans le détail, 80% des malades dialysés, 75% de ceux qui souffrent d'un cancer, 70% des diabétiques ou porteurs de trisomie 21. Mais les courbes commencent à stagner et l'assurance maladie a fait le compte. 5 millions de patients à risque ne sont pas vaccinés. Comment les inciter à le faire? Passer par les médecins traitants. Ils peuvent demander la liste de leurs patients non vaccinés, 5000 l'ont déjà fait. Et pour ceux qui n'ont pas de médecin traitant, la Sécurité sociale va les appeler à partir de la semaine prochaine, explique Dominique Martin de l'assurance maladie.
On a identifié des patients qui n'avaient pas de médecin traitant, une vingtaine de milliers de patients qui ont des comorbidités. Le service médical va les appeler individuellement pour leur proposer la vaccination.
Et qu'ils aient un médecin traitant ou pas, l'assurance maladie va appeler aussi tous les patients qui sont très à risque et pas vaccinés, soit 150 000 personnes atteintes de mucoviscidose, de cancer ou qui ont par exemple été transplantées.
Convaincre les plus à risque, alors qu'un cap est franchi ce soir en Europe, la moitié des adultes de l'Union européenne sont désormais vaccinés, soit 200 millions de personnes, annonce la Commission européenne. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Emmanuel Macron vient de changer de téléphone et de numéro, pour certains échanges en tout cas. C'est ce qu'annonce ce soir l'Élysée à France Inter après les révélations sur l'affaire Pegasus. Le chef de l'État figurait parmi les cibles potentielles des services de renseignement marocains. L'entourage du président évoque aussi un renforcement de tous les protocoles de sécurité. Un changement de téléphone donc, mais quelle riposte diplomatique maintenant? Bonsoir Frédéric Saïs.
Bonsoir.
Pour l'instant, extrême prudence de la diplomatie française.
Prudence et presque mutisme. Le ministère des Affaires étrangères se refuse à tout commentaire public. Matignon renvoie vers l'Élysée et l'Élysée temporise. Des enquêtes sont en cours, explique l'entourage du président, et aucune certitude n'est apparue à ce stade. Une réserve qui contraste avec la gravité des révélations du consortium Forbidden Stories, associé à la cellule Investigation de Radio France, rien de moins qu'un chef d'État dont le téléphone est ciblé par le service de renseignement d'un pays allié. C'est potentiellement grave, très grave, et c'est pour cela qu'il faut rester très prudent, justifie une source diplomatique française. On ne peut pas réagir à chaud, encore moins vis-à-vis d'un allié comme le Maroc. Pays allié et pays précieux dans la coopération sur des dossiers sensibles, ce qui explique aussi la pondération des autorités françaises. Paris et Rabat travaillent étroitement ensemble, notamment sur le terrorisme et sur l'immigration illégale. Les autorités marocaines, de leur côté, nient toute utilisation du logiciel espion.
Frédéric Saïs, et ce soir, le Maroc, au cœur de ses accusations d'espionnage, attaque donc en diffamation Amnesty et le consortium de journalistes Forbidden Stories. La cellule investigation de Radio France en fait partie et elle maintient bien sûr l'intégralité des informations révélées depuis dimanche et qui sont d'ailleurs à retrouver sur franceinter.fr. Elle dit vouloir restaurer la fierté française. À son tour, Valérie Pécresse annonce officiellement sa candidature à l'élection présidentielle via la primaire de la droite. La présidente de la région Île-de-France le dit dans les colonnes du Figaro. Après Xavier Bertrand, fin mars, c'est donc la deuxième personnalité de droite à officialiser son envie d'Élysée. Pas vraiment une surprise, Élodie Forêt, même si on n'attendait peut-être pas cette annonce aussitôt.
Il y avait deux options sur la table, soit attendre le 28 août et sa rentrée à Brive en Corrèze, soit partir dès maintenant pour ne pas laisser filer l'été et prendre trop de retard derrière Xavier Bertrand. Surtout que la présidente de la région Île-de-France avait d'ores et déjà prévu des déplacements un peu partout en France, à commencer demain par la Drôme, mais sans annoncer la couleur, ça n'avait électoralement pas trop de sens, explique son entourage. Et puis il y a aussi la réunion mardi dernier avec Christian Jacob, Gérard Larcher et Jean Leonetti, où le principe d'une primaire ouverte qu'elle revendiquait a été acté s'il n'y a pas en septembre un ou une candidate qui écrase le match. Bref, tous les signaux étaient au vert. Valérie Pécresse, qui à la différence de Xavier Bertrand, s'engage à jouer le jeu collectif. « Je n'ai pas peur de la primaire, je ferai tout pour gagner et rassembler », dit-elle au Figaro. Un ténor de la droite commente « Elle pense que c'est le temps des femmes, elle n'a peut-être pas tort ».
Élodie Forêt, service politique de France Inter. À l'étranger, on ne connaît pas encore leur identité. Au Mali, l'armée française a neutralisé, autrement dit tué, deux cadres de l'État islamique au Grand Sahara, une organisation locale affiliée à Daesh. 26 milliards de dollars, soit 22 milliards d'euros, c'est la somme que sont prêts à payer les groupes pharmaceutiques américains pour solder les litiges liés à la crise des opiacés. Ces sociétés sont accusées d'avoir, pendant des années, promu les médicaments opiacés et fermé les yeux sur leur surconsommation, montant historique, mais un accord qui reste pour l'instant au conditionnel, Loïc Loury.
21 milliards de dollars versés sur près de 20 ans par les trois distributeurs de médicaments les plus puissants du pays et 5 de plus par le laboratoire Johnson & Johnson. C'est la somme qui pourrait aller dans la poche des États, des comtés et des villes si l'accord annoncé hier est appliqué. Pour cela, il faudrait qu'une majorité d'États, sans qu'on ne sache combien, ne donne leur aval dans les 30 jours avant de convaincre également villes et comtés de renoncer à de futures poursuites, faute de quoi seule une partie de ces 26 milliards de dollars ne sera versée. Et la tâche n'est pas gagnée. Les États de Washington et de Virginie-Occidentale ne signeront pas cet accord. Il favoriserait, selon eux, les territoires les plus peuplés au détriment des plus touchés. Conclu ou non, cette entente, de toute façon, ne signerait pas la fin de la bataille qui oppose depuis des années les collectivités et l'industrie pharmaceutique et des milliers de procédures restent ouvertes. Quant à la crise des opiacés qui a fait 500 000 morts en 20 ans, elle est repartie de plus belle en 2020 à la faveur de la pandémie. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et puis pour occuper vos vacances, un détour par les Hautes-Alpes pour clore ce journal, à la rencontre d'une installation artistique hors norme, la bataille de Little Bighorn, 35 sculptures de l'artiste sénégalais Ousmane Sow, décédé il y a 5 ans maintenant. Vous vous en souvenez peut-être, ces géants avaient été exposés pour la première fois en 99 sur le Pont des Arts à Paris. Les voilà donc de retour dans le village fortifié de Mont-Dauphin, Isabelle Pasquier.
La vision est saisissante. Sur le plateau des Mille Vents, dans l'ancienne caserne de la forteresse, toute la puissance et la sensibilité de cette œuvre monumentale d'Ousmane Sow, la bataille de Little Bighorn, des corps déformés, surdimensionnés, tellement vivants, et des chevaux qui hurlent à la mort avec une folle expression humaine. Cette œuvre est un hommage à la lutte des plus faibles, un miroir de nos défaites et de nos espoirs. Ousmane Sow s'en expliquait dans le film Le Soleil en face, réalisé par Béatrice Soulet.
Ce qui m'intéresse, c'est la vie. La majeure partie de mon travail, je représente les hommes en action et même des scènes de violence. Les hommes qui luttent, on lutte pour conquérir la femme qu'on aime, on lutte pour conquérir l'espace. La lutte est une façon d'exister et de reconnaître l'autre.
Impressionnant, Indiens et Américains ont tous des regards noyés de tristesse ou implorant le ciel. Béatrice Soulet, commissaire de l'exposition.
Son souci principal à Ousmane, c'était de toujours représenter l'homme dans sa dignité. Il a toujours dit qu'il n'aurait jamais pu faire un homme humilié. Les visages d'Ousmane Sow ont tous un point commun, qui est cette désespérance et cette espérance mélangée qui est tellement troublante.
Et fascinant, avec une matière secrète, faite de fer, de jute et de pigments, Ousmane Sow s'est approché au plus près de la création de la vie.
La bataille de Little Bighorn, c'est à voir à Mont-Dauphin dans les Hautes-Alpes. Vous avez un peu le temps, hein, puisque les sculptures vont y rester jusqu'en 2031.
La météo, avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Alexis, bonsoir à tous.
Au programme demain, soleil voilé et orage en Bretagne.
Oui, le ciel ne sera pas aussi limpide qu'aujourd'hui puisque des nuages élevés vont envahir le ciel. Ces nuages seront plus épais l'après-midi, hormis le long des frontières nord et autour de la Méditerranée. Dans les plaines du sud-ouest, il faudra encore attendre la dissipation des grisailles matinales pour profiter de ce soleil partiellement voilé. Les nuages resteront d'ailleurs prédominants l'après-midi entre le Pays Basque et la Charente-Maritime, mais le temps restera calme. En revanche, la journée s'annonce nettement plus agitée sur la Bretagne. Dès le matin, des orages circuleront par vagues successives entrecoupées de périodes moins perturbées. On attend de violentes rafales de vent, des pluies parfois abondantes et même de la grêle. C'est pourquoi Météo France a placé le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan en vigilance orange. D'autres orages localement forts sont à craindre à partir de demain soir, se développant sur le Massif central et se propageant vers la Bourgogne et le nord de la Seine en cours de nuit suivante. Les températures, elles restent bien estivales. Évidemment, sur la façade ouest, l'air va un peu se rafraîchir. Prévoyez 25 degrés à Saint-Brieuc, jusqu'à 37 degrés à Carpentras, avec 31 degrés pour Paris, Alençon et Strasbourg et 35 degrés à Lyon et à Toulouse.
Sébastien Léas de Météo France, merci.